Notre invité ce soir est donc Philippe Osnet, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, directeur de l'association Osez en parler. Il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osnet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, et j'observe que dans le studio, ici, ce soir, en général, il y a de la joie.
Oui.
Ça fait du bien.
Et oui, et d'autant plus que le thème vraiment que nous allons aborder ce soir est particulièrement réjouissant, non par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit Dieu. Et l'esprit de Dieu est un esprit d'amour, de lumière, de joie, de paix, de joie.
Oui.
Voilà, c'est le titre que nous avons donné à cette émission. Titre qui nous renvoie au livre de Zacharie.
Hein. C'est cela.
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Hein,
c'est tiré de cette parole du livre de Zacharie. Hein.
Chapitre 4, c'est le verset 6.
Exactement, voilà, pour être précis. Et pour en témoigner, nous avons choisi une histoire très belle.
Oui, elle est belle.
Très édifiante, que l'on trouve dans le livre des juges, par contre, au chapitre 6 et 7. Et c'est l'histoire de Gédéon. Mais qui est donc Gédéon? Quelle est cette histoire? Qu'a-t-elle à nous apprendre, à nous apporter aujourd'hui, à nous, hommes et femmes du 21e siècle? Alors, pasteur Philippe Osnet, est-ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir d'ailleurs tout au long de cette soirée, n'est-ce pas?
On va beaucoup parler de Gédéon, et c'est vrai que moi ça fait une vingtaine d'années largement que j'ai étudié de fond en comble l'histoire de Gédéon. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle, parce que dans l'Ancien Testament, rien n'est écrit au hasard. Et quelquefois, on se dit, tiens, tel chapitre, bon, oui, bof, j'en tire rien, forcément. Mais je crois qu'il faut insister. Et il faut un petit peu ruminer, hein, donc remâcher les choses.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des textes qui, en apparence, nous paraissent anodins. Et si on insiste, si on prie, si on les relit et on les relit encore... Eh bien, tout à coup, il y a des petites lumières qui viennent et là, on comprend le sens spirituel de certains récits. Et le récit de la vie de Gédéon est immensément plan, surtout de nos jours d'ailleurs, où on vit des événements très difficiles. On pense d'ailleurs, et on dit encore un petit mot d'affection ce soir aux familles qui sont dans le deuil, qui viennent de le vivre, qui ont perdu dans cette région parisienne quelqu'un de précieux. Et puis il y a eu plein d'autres choses. Il y avait eu ce car qui avait flambé, ce bus également, qui avait tapé contre un camion le matin. Et oui. Je ne sais plus combien il y avait de morts, mais je crois que c'est 40 ou 50. Ils sont tous morts. Enfin, pas tous, mais... Alors donc, il y a beaucoup de gens en ce moment...
Dans la fiction, dans le deuil.
Dans la fiction. Et il faut dire que cette période d'attentat a créé une anxiété chez tout le monde. Hein, même en province, elle est perceptible.
Ah oui.
Tout le monde en parle. Les gens sont anxieux. Et je pense d'ailleurs que, ça paraît contradictoire, mais ça va aider certaines personnes à mieux se positionner. Hein, dans quel Dieu est-ce que je crois? Voilà. Ce Dieu vengeur qui assassine, qui tue des innocents.
C'est un Dieu d'ailleurs.
Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, pour donner leur vie à Dieu, vont se suicider et tuer un nombre maximum de personnes autour d'eux? Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Vous avez raison.
Oui, ça n'a rien à voir. C'est une, voilà. C'est une idole, quoi. C'est une idole.
Et c'est très mal, ça. On ne tue pas au nom de Dieu. On ne se sert pas du nom de Dieu. Pour tuer.
On ne l'instrumentalise pas.
Voilà. Alors bon, les gens donc sont devant ces événements et réfléchissent. Moi, j'ai vu les gens discuter. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on va se positionner maintenant? Est-ce que Dieu existe, par exemple? Et s'il existe, est-ce que c'est un assassin? Ou alors un d'amour? Et je pense que dans nos églises chrétiennes, il va y avoir un approfondissement. C'est malheureux que ça arrive à cause d'attentats et d'événements comme ça. Hein. On ne souhaite pas que ça arrive à cause de cela. Mais on voit que les gens vont approfondir leur foi. Je suis sûr même que nos amis musulmans, que j'aime, je suis sûr que nos amis musulmans vont eux aussi réfléchir, hein, et se dire non, ceux qui se prétendent comme ça, qui tuent, c'est pas, est-ce que c'est notre foi?
Ben non, ils disent bien. Et, alors,
il y a tout, et on est dans une période alors, de terreur, de terreur nationale, de deuil national, mais à la fois de réflexion profonde.
Oui, oui, oui.
Les gens réfléchissent beaucoup plus maintenant. Et on peut mieux parler de Dieu d'ailleurs. On peut mieux dire, ben, moi je crois en un Dieu d'amour. Hein, parce qu'il y en a qui nous disent, mais pourquoi Dieu fait ça ou pourquoi Dieu laisse faire ça? Hein, ces assassinats, ces attentats d'innocents, je vais dire envers des innocents. Donc, je voulais dire ça un petit peu en introduction, et puis on va revenir donc à notre...
À Gédéon, parce qu'à cette époque aussi, il y avait des conflits, des violences, des combats.
Il y avait des combats, oui,
c'est tout le temps.
Il y avait
des
guerres, bah, rappelons-nous de David contre Goliath. Hein. Mmh.
Ben oui, ça aussi, c'est un épisode.
Hey,
mais il y a quand même un lien, je trouve, entre Gédéon et David, quelque part. Parce que toujours, Dieu choisit toujours le petit, le faible,
oui.
Le dernier,
oui.
Quelque
même
part.
Même Joseph dans l'Ancien Testament.
Mais oui, aussi.
Hein, le petit Joseph qui a 17 ans et qui est appelé par Dieu. Il devra passer par, je crois, 22 ans. Il devra passer une période de 22 ans où c'est l'inverse de ce que Dieu lui avait dit.
Qui
s'est passé. Et tout à coup, au bout de 22 ans, un retournement. Et voilà les frères de Joseph qui arrivent. Et puis, à cause de cela, tout ce peuple d'Israël va pouvoir, j'allais dire, déménager en Égypte pour se sortir de la période de famine. Mmh. Hein. Donc, il y a eu un mal pour un bien. Le petit Joseph, qui est devenu grand, le dira plus tard à ses frères.
À ses frères.
Ne vous en voulez pas trop.
Oui, parce que Dieu avait un plan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc Dieu l'a retourné la situation au profit de tous.
Hein. Et on voit dans ces textes qui concernent Gédéon, il faut qu'on dise que ces textes sont dans le livre des juges, au chapitre 6 et 7. Hein. C'est pas long à lire.
Et c'est une belle histoire.
Oh, c'est
ça
une
se
belle
lit
histoire.
Comme vraiment une histoire.
Et c'est très riche. Il y aurait eu de quoi faire 3-4 émissions, d'ailleurs, sans année.
Oui, parce qu'il y a des épisodes différents. Hein. On le voit avant que ne se passe vraiment la mission, il y a une préparation. Hein.
C'est ça. Alors, la première chose qu'on peut remarquer quand on lit bien ces deux chapitres, le verset premier du chapitre 6 nous dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Ah, oui, oui.
Là, je m'arrête là.
Oui.
C'est-à-dire que à l'époque, les Israélites se sont détournés de Dieu.
Hein? Pourtant, ils étaient choisis. Hein? Choisis par Dieu.
Le peuple élu. Oui. Hein? Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, il y a dû y avoir de l'idolatrie à nouveau. Il y a eu des magouilles. Il y a eu plein de choses qui n'allaient pas. Cette année de désobéissance du peuple, et pendant ces 7 années, même plus, la désobéissance était plus ancienne, hein, mais en tout cas pendant 7 ans, la conséquence sur eux, c'est que leurs ennemis vont dominer sur eux. Voilà. C'est une vraie guerre. Hein. D'ailleurs, on va, si vous voulez bien, Chantal, le lire. C'est pas long. C'est 5-6 versets. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Donc, il y avait 3 peuples là.
Oui.
Qui s'était ligué contre Israël. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il les narguait.
En face, oui.
En face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, Nian.
C'est la razzia totale.
Oui, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ça a duré 7 ans, Chantal. 7 ans.
C'est long, hein, quand on n'en voit pas le bout, et on ne sait pas combien de temps ça va durer encore.
Oui, et puis il y en a peut-être beaucoup parmi ces Israélites qui étaient des cœurs droits.
Ben oui.
Et ils ont prié. Ils ont prié l'éternel Dieu.
C'est pour cela que la situation a pu changer.
Et oui, on le voit juste après. D'ailleurs, c'est à partir du verset 6. Hein.
Israël fut très malheureux.
Israël a beaucoup souffert. Et verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'éternel. Ouais. Alors là, il y a eu un commencement de réveil. Ils se sont dit... On n'arrivera pas à s'en sortir tout seul.
Non. Par nos propres forces.
C'est foutu,
non.
C'est fichu. Les ennemis, ils sont ces trois peuples qui se
liguent.
Ligue contre nous. Mm. Ils campent à quelques kilomètres, ils nous observent de loin, ils ont une tactique infernale. Et on n'arrivera pas à s'en sortir comme ça.
Donc alors, ils ont eu le bon réflexe.
Là. Oui, ils ont eu le réflexe de prier. J'aimerais m'adresser à mes amis auditeurs, auditrices ce soir, et dire à certains d'entre vous que si vous êtes dans cette condition-là, dans votre vie personnelle ou familiale, que ça fait des années que vous êtes comme miné par des épreuves, et que vous êtes lassé, fatigué à cause de ça, parce que vous ne voyez aucune issue, je dirais même que peut-être les choses empirent, malgré vos prières, j'aimerais vous dire de ne pas baisser les bras et peut-être de bien écouter cette émission de ce soir ou de la réécouter, puisqu'elle est mise dès le lendemain en réécoute sur le site podcast. Voilà, j'ai du mal à le dire. Inspirez-vous des événements qu'Israël a vécu du temps de Gédéon. Verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël.
Il répond tout de suite.
Voilà.
Il envoie. Ouais.
Il répond. Il va envoyer un homme. De même que Moïse a été envoyé. Et il y a eu 40 années de préparation dans le désert.
Ouais.
C'est pas petit.
Ouais.
40 ans.
40 ans,
oui. Donc il avait 80 ans quand Moïse est entré dans le ministère. 80 ans. Bon, d'ailleurs,
ceux qui l'ont peint ou qui le représentent,
voilà, patriarche avec une barbe blanche, il est là avec une canne, il marche lentement parce qu'il est âgé déjà. Hein? Alors c'est à 80 ans qu'il va commencer. Et celui qui avait tué, hein, 40 ans plus tôt, maintenant est devenu pacifique. Et c'est lui, malgré son péché, parce que n'oublions pas que Moïse était donc un ancien meurtrier.
Mais oui, puisqu'il avait tué les Égyptiens, là, en cachette.
Il avait tué un Égyptien, oui, il l'avait enterré. Oui. Alors, c'est lui que Dieu va choisir pour libérer tout un peuple et pour aller voir Pharaon, qui était à l'époque un dieu auquel on ne résistait pas.
Hein?
D'ailleurs, quand Pharaon avait parlé, quelqu'un disait « que cela soit écrit hein? ». Les paroles de Pharaon, fallait pas y toucher. Hein? C'est ce cher Moïse qui était simplement un gardien de troupeau, quoi. Hein? Eh bien, il est donc revenu chez les Israélites et puis il les a libérés. Hein? Il a dû aller en Égypte. Mais il les a vus, il a discuté avec eux. Et puis là, Dieu va donner du succès à Moïse, mais ça sera parsemé de plein d'épreuves. Plein d'épreuves, parce que le peuple va lui résister aussi.
Oui.
Il lui résiste.
Un peuple à la nuque raide.
Alors, il y a beaucoup de parallèles, en effet. Charles, c'est vous qui avez lancé l'idée en début de cette émission. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de parallèles entre tous ces hommes. Joseph, hein, qui a dû vivre le rejet par ses frères. Il a été vendu deux fois. Il a été vendu à des Ismaélites et puis il a été vendu aussi à ses Potiphar, donc officier de Pharaon, vendu comme esclave.
Pas facile. Il a eu des déboires avec vendu. La femme de Potiphar qui voulait le faire passer aussi.
Il a été pris pour un violeur.
Oui, c'était...
Alors que c'était la femme de Potiphar qui cherchait à violer Joseph.
Voilà, c'est ça. Et donc, comme elle n'arrivait pas à le séduire, elle a retourné la situation.
C'est ça. Disant, oui. Alors, comprenons bien que le bien peut quelquefois arriver ou venir à la suite du mal.
Oui. Une situation qui a l'air de...
Qui a l'air d'être pourrie, d'être... d'être comment... où il n'y a pas d'issue. Elle est sans issue. Ouais. Voilà, je cherchais mon mot. Elle est sans issue.
Et c'est inattendu au moment où c'est comme
Il y a un retournement. Dieu met sa main. Et le titre de notre émission, c'est « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». C'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui va créer quelque chose.
Ni par, non par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit Dieu. Et c'est ce que va expérimenter Gédéon. Gédéon qui... c'est vrai, on n'en parle pas forcément beaucoup de Gédéon.
Non, c'est vrai que Moïse est beaucoup plus connu dans nos églises et parmi les chrétiens. Moïse, enfin Jésus, dont d'ailleurs les musulmans disent qu'il est un prophète. Et il s'appelle Marie, donc il l'appelle Myriam. Alors, c'est vrai, il est beaucoup moins connu. Son histoire mérite cependant d'être connue et soulignée, tellement elle est riche d'enseignements pour nos vies personnelles de nos jours. Parce que c'est ça qui compte. Si on lit la Bible simplement comme un livre historique pour dire, ben voyez, moi je connais la Bible, et puis s'en vanter, ça sert à rien.
Non, il faut en tirer quelque chose pour notre vie aujourd'hui.
Il faut se dire, voyons, Dieu me parle. Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il veut me dire au travers de ce texte? Voilà. Et là, Dieu se révèle. Pourquoi? Parce qu'on est ouvert à être enseigné. Tandis que si on lit, simplement d'une manière historique, bon oui, c'est bien, tiens, bah oui, il était courageux. Il n'y a rien qui va se passer dans nos vies.
On reste à l'extérieur.
Voilà. Et là, le résumé de tout ce que fera Gédéon, appelé par Dieu... C'est le titre qu'on a choisi, c'est donc ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Et nous allons aller plus loin dans l'histoire de Gédéon pour le comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup son histoire.
Qui était-il déjà? Voilà.
Alors, Gédéon dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit ça à Dieu, parce que Dieu lui dit... N'est-ce pas moi qui t'envoie? Enfin bon, je vais revenir un petit peu avant, verset 12 du chapitre 6. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ».
Bon. Jusqu'à présent, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros.
Oui, vaillant héros.
Pour l'instant.
J'imagine que Gédéon a dû prendre ça comme une flatterie.
Est-ce que c'est bien à moi que ça s'adresse?
Est-ce que c'est bien à moi? Ou alors il a dû se dire, l'ange de l'Éternel me connaît très mal. Alors l'ange de l'Éternel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est la représentation de Jésus-Christ. Donc c'est certainement Jésus. Qui est apparu à Gédéon. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Un petit peu défaitiste, là, Gédéon.
Oui, il a les bras qui tombent un peu.
L'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Il y a un petit reproche derrière. Parce que Gédéon parle à Jésus, parle à l'ange de l'Éternel. Et il parle à Dieu, donc.
Ah oui.
Maintenant, l'Éternel nous abandonne. C'est pas facile à dire devant Dieu. C'est-à-dire, maintenant, Dieu, tu nous abandonnes et tu nous as livrés entre les mains de Madian. Voilà. Alors, c'est coup-ci, coup-ça. Enfin bon, C'est à moitié un reproche et à moitié une constatation. Alors l'Éternel se tourne vers verset 14, l'Éternel se tourne vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voilà, alors arrêtons-nous là. Va avec cette force que tu as. Ça me rappelle l'épisode des 5 pains et des 2 poissons. Il y avait une foule de 15 000 hommes et puis un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y avait pour nourrir ces 15 000 hommes. Ben, on est parti de ce qu'on avait.
Voilà, on part de ce qu'on a.
Et en général, quand on est appelé par Dieu ou quand Dieu veut faire quelque chose au travers de nous, n'attendons pas que le ciel fasse du bruit, qu'il y ait un coup de tonnerre, une grande lumière, et puis des choses visibles sous nos yeux.
C'est à partir de la situation du réel, du concret tel qu'il est.
À partir du rien qu'on a. Hein. Et c'est là que Dieu va pouvoir se manifester, parce que justement, on n'a rien. Hein. Il va pouvoir se montrer comme étant notre tout, parce qu'il est notre tout, Dieu.
Et on le retrouve dans beaucoup d'épisodes dans la Bible,
l'Ancien Testament,
comme dans le Nouveau.
Mais quand je vois la naissance de Jésus, tiens, on n'est pas loin de Noël, là. Hein. Quand je vois cette naissance, là où vivaient les animaux,
la mangeoire.
On se rend quelquefois pas compte de ce que ça représente. Que Jésus, le Fils de Dieu, donc Dieu lui-même, va accepter de naître dans le coin des animaux. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont une pièce réservée à leurs animaux chez eux, hein, parmi nos auditeurs, auditrices. Vous avez peut-être une pièce réservée peut-être à 2 chats et puis un chien, j'en sais rien. S'ils s'entendent bien d'ailleurs, ce n'est pas dit, mais ça arrive. Et puis, eh bien, imaginez-vous que Jésus, Fils de Dieu, est né dans cet endroit-là. Pas dans le salon, hein, pas dans la pièce la plus belle, mais dans le coin des animaux. Voilà, comme dans une cave.
Dans une grotte, c'était un coin,
C'était.
D'ailleurs, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie.
Il n'y avait pas de place pour eux.
Pas avec les humains, en tout cas.
Oui, alors on peut même se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas libéré une place à l'avance, lui qui peut tout. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Alors, c'est parlant. C'est un petit peu révoltant, même humainement. Mais en fait, Dieu a voulu montrer que c'est dans l'abaissement que se produisent toujours les miracles et les plus grandes choses. Dans le renoncement, dans la souffrance, dans la privation, dans l'incompréhension. Dans le déraisonnable par rapport à la raison humaine. Dieu a toujours voulu montrer cela.
Il a une raison.
Il a une raison. Il y a eu le lavement des pieds.
Hein?
Voilà, je vais vous montrer ce que c'est que de servir Dieu et d'être un serviteur. Puis Jésus se met à genoux.
Celui qui veut être le premier.
Et voilà. Qu'il soit comme le dernier. Alors, il va laver les pieds de ses disciples. Voilà l'exemple du roi de gloire que Jésus a voulu montrer à ses disciples, qui, eux, l'auraient élevé. Il l'aurait fait roi. D'ailleurs, le peuple, à l'époque, le recherchait pour le faire roi.
Oui, il y avait un quiproquo.
Et en fait, non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Hein. Alors, c'est... Il faut le redire et redire sans cesse que le plus grand miracle de Dieu, c'est sa mort sur la croix. En mourant sur la croix, il a ouvert l'accès au salut de millions de personnes. On croit que le plus grand miracle de Jésus, c'est quand il a transformé l'eau en vin, ou quand il a multiplié les pains, ou que sais-je, quand il a guéri le lépreux. Non, le plus grand miracle de Jésus, c'est quand il se tait, il souffre en silence, on lui crache dessus, on le flagelle et on va le crucifier. Il ne peut plus parler parce qu'il est sur la croix, et donc il y a une asphyxie, hein, La mort a lieu par asphyxie, quand on est comme ça, les pieds et les mains cloués sur une croix. Alors, il ne dit rien. La seule chose qu'il va dire, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Alors, on voit encore, là, le titre de notre émission. « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel ». Jésus l'a vécu aussi.
Oui.
Parce que par la force et la puissance, il aurait pu descendre de la croix et se faire roi. D'ailleurs, les Juifs qui étaient au pied de la croix se moquaient de lui. Les sacrificateurs disaient « Descends de la croix, si tu es Dieu, voilà, tu peux tout faire ». Eh bien non, le chemin du plus grand miracle de l'humanité, c'est-à-dire que le nouvel Adam, Jésus, c'est la représentation du nouvel Adam. Eh bien, le chemin pour ce nouvel Adam, ça va être de tout prendre sur la figure. Le péché des hommes, mon péché, le vôtre, le nôtre, et de se laisser mourir. Parce qu'on va le tuer. Et quand on obéit à Dieu, quand on sert Dieu, et qu'on marche par l'esprit, et c'est une expression que je vais employer, on se fait tuer, quoi. C'est pas forcément qu'on va nous poignarder, hein. Mais il y a des paroles qui sont pires que des balles, et qui tuent. Eh bien, on va se faire assassiner verbalement. Et le pire, c'est que, quelquefois, ce phénomène se produira de la part de collègues ou de gens croyants qui croient rendre un culte à Dieu en faisant cela.
Oui.
Alors, donc, retenons cela. Jésus qui vient plus petit qu'une tête d'épingle, puisque parlons de Noël aussi encore, plus petit qu'une tête d'épingle. Lui, Jésus qui était là à la création, on voit quand on lit la Genèse, il a participé à la création du monde. Lui, il accepte le Jésus infiniment grand.
La sagesse.
Oui, la sagesse. Il accepte de redevenir une plus petit qu'une tête d'épingle. Il ne parlera pas pendant 9 mois, puisqu'il sera dans le ventre de sa mère. Il va entendre des gargouillis, des discussions, quelquefois pas faciles, entre Marie et Joseph, puisque Joseph, au début, il se disait, elle est enceinte, mais moi...
J'y suis pour rien.
J'y suis pour rien.
Oui, il a dû vivre aussi des choses difficiles.
Il a vécu des angoisses. Donc Jésus était là, et pendant 9 mois, il est demeuré invisible, bien que présent sur la terre, mais invisible, sans pouvoir parler, sans pouvoir rien faire. Et ça continuera après sa naissance, parce qu'il devra être langé.
Oui, un enfant, un bébé.
Nettoyé, hein, oui. Nourri. Et puis les premières paroles d'un bébé, c'est quoi ? Areux, areux, areux. Puis le premier sourire, il arrive à l'âge de 1 mois. Alors d'ailleurs, on le guette en tant que parent. Hein. On sait que c'est aux environs de 1 mois. Puis tout à coup, on voit notre bébé se mettre à sourire. Et ça, moi j'ai pris une photo pour mon fils aîné de son premier sourire. J'ai pu le choper. Et quand il rit, les bébés, quand ils sourient à cet âge-là, c'est magnifique à voir. On voit leur joli cœur, on voit leur innocence, les yeux pétillent. Et c'est pour les parents une récompense. Alors, revenons à Jésus qui est né dans une étable, rejeté par tout le monde. Aucun prophète n'est venu sur place. C'est qui est venu ? C'est les rois mages.
Les bergers. Les bergers. Qui étaient considérés à l'époque les premiers comme...
Des astrologues. Ont été prévenus par Dieu, et ils ont suivi une étoile. Ils sont venus adorer l'enfant Jésus. Ce n'est pas les sacrificateurs qui sont venus.
Non, non, c'est des gens qui venaient de loin, mais des vrais chercheurs. Des vrais chercheurs.
Des vrais chercheurs. Alors, c'est très parlant. On peut s'étonner pourquoi Dieu, même à l'heure actuelle, par exemple, tremblement de terre, les tsunamis, il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu laisse faire ça ? Pourquoi Dieu laisse faire ça ? On n'a pas de réponse.
Ben non.
on n'a pas de réponse. Mais c'est dans la petitesse que Dieu veut se révéler, dans des choses petites. Et quelquefois, c'est malheureux, mais c'est comme si les choses étaient dans l'oubli. Les journalistes ne sont pas prévenus, quoi.
Non, ça ne fait pas la une des médias.
C'est même pas, c'est même pas un fait divers.
Non.
Voilà, alors Jésus naît comme ça. Et dans tous les autres textes bibliques, on retrouve cet état d'esprit. Dieu choisit des hommes incapables, peureux, craintifs.
Moïse aussi, il devait être éliminé et il a été sauvé, sauvé
oui,
des eaux.
Moïse, Dieu va choisir un meurtrier pour devenir le grand Moïse, le grand libérateur. Dieu va choisir un meurtrier. Il choisit ce qui n'est rien. Parce qu'il veut montrer que c'est par son esprit
C'est pas par
que le succès arrive.
C'est pas par l'homme lui-même, c'est pas les mérites de l'homme.
C'est pas par les mérites de l'homme. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se dise à soi-même.
D'ailleurs, Gédéon était au départ, il battait du froment au pressoir. Il était, il faisait un travail tout à fait.
Il faisait son boulot d'agriculteur.
Oui, c'est ça.
Et le texte le dit. Enfin, je sais plus où vous avez trouvé, puisqu'on l'a sous les yeux. Il battait du. Ah, c'est là. Oui, d'accord. Mais je vois, oui.
Il battait
tout à fait. Je le vois aussi, sur ma feuille. Oui, Gédéon, son fils. Donc, il était de. De la famille d'Abiézer.
C'est ça, oui.
Et alors, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ah, et quand même, il avait un don.
De prévoyance.
De petit cachotier, là. Il avait un don de protection.
Il faisait des réserves, il essayait de. La situation était difficile.
Oui.
Alors, on va écouter tout de suite, c'est Thomas Houghton qui chante Espiritu.
Radio Notre-Dame.
Voilà. Espiritu, Thomas Houghton, c'est un
magnifique,
chant
mais alors quelle
habité.
Splendeur, ouais. Quelle profondeur et quelle présence de Dieu, quelle onction de Dieu dans ce chant qui n'est pas grand-chose en soi, mais qui nous bouleverse à l'intérieur de nous, comme quoi des petites choses peuvent en provoquer de grandes. En tout cas, moi, ça m'a vraiment bouleversé.
Et ça remue. C'est vrai que ça remue beaucoup de choses, hein, ces choses. Parce que être humain se sent bien qu'il y a la présence de Dieu et il y a les forces qui sont
et Dieu
là.
Dieu est présent dans la nature. Il est présent aussi dans le chant. Et la Bible en parle, hein, puisque le livre des psaumes, psaume, ça veut dire poème chanté.
Ouais, David est spécialiste.
Voilà, il est spécialiste. Et les prophètes, à l'époque, se faisaient accompagner de musiciens pour mieux prophétiser.
D'ailleurs, dans la Bible, il y a tous les instruments de l'époque, hein, les chauffards, le corne de bélier. D'ailleurs, je crois qu'il y a ça dans Gédéon, les cornes qu'il va utiliser.
Oui, c'est ça. Alors donc, on va continuer l'histoire de notre ami Gédéon.
Gédéon, donc le plus petit, c'est ça.
Et puis, alors, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Ça change tout. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? C'est-à-dire, toi, tu ne pourras pas faire réussir les choses. Tu ne pourras pas.
Mais si je suis avec toi, si c'est moi qui t'envoie...
Si c'est moi qui t'envoie, ça va marcher parce que moi, je serai derrière toi. Je serai à ta gauche, à ta droite, je serai devant toi. Je serai partout.
Et c'est moi qui combattrai pour toi.
Et c'est moi qui combattrai pour toi. Alors ça, c'est l'enseignement essentiel qu'on peut
pour chacun de nous,
découvrir. Oui, l'Ancien Testament, ça revient comme un leitmotiv. C'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui fera.
Ouais.
Et voilà. Alors l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quelle beauté, hein ?
Ah oui.
Quelle beauté. Même chose que pour la ville de Jéricho. Dieu dit à Josué, j'ai livré, et c'est Josué qui va le dire au peuple d'ailleurs, il va prononcer un discours, Dieu nous a livré la ville, alors qu'elle n'était pas livrée. Dieu nous l'a livrée. Voilà. Alors même chose, tu battras Madian comme un seul homme. Parce que Gédéon, lui, il parlemente avec Dieu comme Moïse l'avait fait. On se souvient de Moïse.
Et tous les prophètes, beaucoup. Et puis on se souvient de Jonas qui lui va carrément.
Il fiche le camp dans la direction opposée. Il va vers l'Espagne.
Il faut croire que c'est pas facile. Humainement parlant, c'est pas facile.
Mais c'est pas facile. On peut les comprendre, ces chers amis, ces chers frères. Gédéon va un petit peu contester. Ah, mon Seigneur, il utilise des formes quand même. Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah, voilà la condition pour laquelle Dieu va choisir Gédéon. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Elle n'a donc pas de moyens financiers ni rien. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le plus petit.
Le plus petit, oui.
Le moins considéré, quoi.
Comme David, il en reste bien.
David, il garde des moutons.
Oui, on n'a même pas pensé à lui.
On n'est pas allé le chercher. On n'est pas allé le chercher, on est allé chercher les adultes.
Hein. Oui, c'est
mais
ça.
Mais pas l'enfant, David. Et alors, c'est fondamental ce qu'on est en train de dire là. Quand Dieu envoie un homme ou une femme, un enfant, ça peut être un enfant, un adolescent, quand Dieu, ou un vieillard, quand Dieu l'envoie, c'est sacré. On ne pourra jamais y toucher. Et toute personne qui s'opposerait à celui qui a été envoyé, en parlant vulgairement, il le prendra dans les dents, quoi. Quand on est choisi par Dieu, on est choisi par Dieu et on est inattaquable. Sauf si Dieu, évidemment, retire sa main. Il peut le faire, il est souverain. Mais tant qu'on est dans la main de Dieu, appelé par Dieu,
pour une tâche,
dans la voie de Dieu, ça va marcher. Mmh. Et tout conflit, toute personne qui s'opposera à nous, au bout d'un moment, je suis désolé de dire ça, mais elle mordra la poussière. Mais ça ne va pas se faire forcément
Facilement.
Tout de suite.
Non, non.
On le voit avec Moïse, il va voir Pharaon, mmh. et puis Pharaon, il résiste. Non, je ne laisse, laisserai pas sortir le peuple. Et puis, voilà, il y a du temps qui passe. Et puis ensuite, il revient Moïse. Et puis, voilà, il y a les fameux miracles, il y a les plaies d'Égypte.
Ah oui.
Et puis, des miracles, des contre-miracles. Ça dure longtemps, ça dure longtemps, mmh. ça dure longtemps.
Si bien que celui qui est envoyé peut se dire, enfin, il faut qu'il tienne parce
ben,
que.
Mais il faut qu'il tienne. Ben, d'ailleurs, le peuple, je pense, enfin, je me souviens plus dans les textes, le peuple.
Mais ils récriminent contre Moïse.
Ils en avaient marre. Hein. Ben, on était mieux.
en Égypte, avec les oignons d'Égypte et tout ça, voilà. manger des bons petits plats, tandis que là, oui. de la manne tous les jours.
Oui, ça, ça sera dans le désert un peu plus tard. Mais. Pas facile pour Moïse et pas facile pour Gédéon. C'est le plus petit de la maison de son père et sa famille est la pauvre Manassé. Voilà. Alors, le choix de Dieu s'oriente vers le plus petit. Bon, alors c'est comme ça. Et c'est incompréhensible.
Même pour se faire accepter des autres, hein, qui ont une vie, une vision.
Alors voilà, ça sera pas, voilà, vous avez raison, Chantal. On
mais
peut...
qu'est-ce qu'il est celui-là pour...
pour qui il se prend?
Oui, c'est ça.
Pour qui il se prend? Ouais. Hein, on peut nous le dire. Pour qui te prends-tu? Ouais. Hein? Alors bon, dans tout ça, ce que je retiens, c'est que quand Dieu met sa main sur un homme, sur un être humain, et puis il l'envoie, eh bien, faudra qu'il y aille, en croyant qu'il est couvert et protégé par Dieu. Bien sûr, parce que s'il ne le croit pas,
ben oui, bien sûr.
Il va trembler, il va rester chez lui, quoi, en croyant que Dieu est avec lui. Alors, la suite du texte, on va pas le lire. C'est Gédéon qui il veut un signe.
On peut le dire.
Voilà.
On peut dire ce qui. Hein? Ben, il veut un signe. Il veut quand même voilà. se dire est-ce que c'est bien toi? Est-ce que je me trompe
c'est
pas? C'est bien parce que
c'est bien.
Il veut discerner quand même.
C'est bien.
Ça peut être un peu égaré.
Ça me fait penser à Marie. Comment
cela se fera-t-il?
Et à Zacharie, oui, comment cela se fera-t-il? Elle voulait tellement que ça arrive qu'elle a posé cette question. Tandis que Zacharie, qui reçoit l'annonce comme quoi sa femme
il y croit,
très âgée est enceinte, ça l'embarrasse un petit peu. Hein? Et là, il va poser la question, il va dire, mais ma femme est âgée, etc. Paf, tu seras muet. Et pendant 9 mois, il devient muet. On a dans un cas, on a l'incrédulité comme fondement de la demande.
Oui.
Et dans l'autre cas, on a une très grande foi que Dieu va récompenser.
Oui.
Alors là, je pense que Gédéon est à classer parmi ceux qui ont une grande foi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles.
Voilà, ça c'est une sagesse quand même.
C'est beau.
Hein, il
bon.
Veut discerner.
Puis il comprenait pas que Dieu l'appelait lui le plus petit, le plus petit. Et il voulait pas se tromper.
Ouais, donc il veut quand même, voilà. Est-ce que c'est
Alors,
bien ça.
Ouais. Il demandera donc comment.
Oui, le premier truc, voilà, c'est ça.
Il y aura plusieurs choses. Hein. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi.
Oui, puisque à l'époque, les offrandes avec les.
Les
animaux,
les rituels
avec les animaux, tout ça, et les pains. Bon.
Et Dieu dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entre chez lui, prépare un chevreau et fait avec un épha de farine des pains sans levain. Ça a dû prendre du temps.
Oui, oui.
Et Dieu est resté. Il est resté. Et puis, il met la chair dans un panier, le jus dans un pot, et les apporte sous le térébinthe et les présente. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et Gédéon fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Voilà. Alors Gédéon, là, a eu son signe. C'est un petit peu comme le prophète Élie.
Élie avec les prophètes de Baal.
Avec les prophètes
oui,
de Baal.
Ça ressemble. Hein, oui.
Où Élie n'a pas mis le feu au sacrifice. Hein.
Non, non. C'est le
feu qui est descendu.
Oui.
Et qui a consumé d'ailleurs même les pierres, je crois. Hein. Non seulement l'eau, parce que Jérémie avait mis plusieurs cruches d'eau autour de l'autel qu'il avait fait. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bien Élie.
Élie,
hein,
Élie, c'est Élie.
Oui,
c'est Élie.
Et donc, alors, Élie prie et le feu du ciel descend et va donc brûler l'Holocauste, l'autel, les pierres, et il n'y aura plus d'eau. Il ne reste plus rien.
C'est vraiment le feu du ciel. C'est le signe. Hein. Donc là, le signe est probant, mais ça ne s'arrête pas là, puisque il faut quand même qu'il... Là, ça va être Dieu qui va lui demander quelque chose.
Oui, alors bon, premier acte, on va dire.
Premier acte, c'est... Hein, il demande un signe, voilà.
Dans la même nuit, le texte dit, oui. dans la même nuit. Donc, c'est des événements, là, qui étaient...
Très proches, ça se suit, hein. Oui.
L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu, etc., etc., etc. Alors, ben, il va le faire.
Là aussi, c'est les dieux de Baal. Hein.
Ben voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas en ordre dans la maison de Gédéon.
Oui, dans la famille, il fallait y remettre un peu d'ordre.
Donc bon, peut-être que Dieu va nous demander de nettoyer notre air, quoi. Si on est appelé par lui, il y aura peut-être des choses à enlever.
Oui, bien sûr.
On va peut-être se séparer de certaines choses. Alors, Gédéon joue le jeu, si je puis dire. Il prend un risque, parce que c'est la maison de son père.
Ah oui,
alors, les autres se réveillent. Voilà, le texte nous dit qu'il l'a exécuté de nuit et de jour parce qu'il avait peur.
Hein. Oui, il ne voulait pas. Quand...
Les gens de la ville se lèvent de bon matin et voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti.
Bon. Donc,
après, les gens disent, qui c'est qui a fait ça ?
Bah oui.
Qui c'est qui a fait ça ? Et puis, ils s'informèrent, firent des recherches. Gédéon, pendant ce temps-là, n'emmenait peut-être pas large.
Sûrement, parce qu'il
a dû se dire, il me cherche, mais pour me faire quoi ? Hein ? Pour me faire quoi ? N'oublions pas que Jésus, on est venu le chercher à Gethsémané.
Oui.
Mais c'est pour le tuer. Hein ? Alors, les gens de la ville...
Ils savent qui est, ils disent que c'est lui, que c'est Gédéon qui a fait ça.
Oui, fils de Joas qui a fait cela. Oui. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Le pieu sacré, c'était une sorte de totem en bois avec des dessins, des représentations sexuelles dessus.
Oui.
C'était ça, le pieu sacré.
Ah, oui.
Donc c'était ce lieu, la maison du père de Gédéon, était donc un lieu de culte où on adorait Baal.
Mmh.
Voilà. Et il y avait des actes sexuels, enfin, tout un micmac.
Oui, c'était pas très net.
C'était pas très net.
Ou très pur.
Et puis finalement, il a réussi à s'en sortir, hein, Gédéon. Il en sort. On lui balance une bonne petite malédiction dessus, hein. Et puis, que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Malédiction. Et puis, finalement, on tolère ça.
Nous parlons de Gédéon à travers cette en exergue, non par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit Dieu. Et Gédéon va en faire l'expérience, va en être un témoin, comme on en voit beaucoup dans la Bible, hein, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament.
Et oui, notre ami Gédéon.
Alors lui, c'est dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7, hein, pour référence.
Voilà, et là, on a presque terminé de narrer le chapitre 6. Il y a cet épisode où Dieu dit à Gédéon, ben voilà, tu vas renverser l'autel de Baal. Et le pieu sacré. Autrement dit, faut se dépouiller. Pour avoir une vraie victoire, il faut se dépouiller de certaines choses.
Oui, ça, renoncer.
On l'a dit, renoncer. Oui. Voilà. Alors, il a obéi. Il a obéi, donc, notre ami Gédéon.
Et il a transgressé quand même quelque chose par rapport au père, parce que c'est le père. C'est...
Ah, mais vous faites bien de le dire, Chantal. J'y avais pensé tout à l'heure et je ne l'ai pas dit.
Par rapport...
Il y avait un esprit de corps entre les Israélites. La famille, c'était sacré. Hein. Et aller dans les affaires de son papa...
Le plus jeune, en plus.
Le plus jeune, en plus. Et puis renverser cet hôtel. Parce que ce n'était pas n'importe quoi. S'attaquer à ça. D'ailleurs, il avait tellement les jetons, Gédéon, qu'il l'a fait la nuit. Le texte le dit, il l'a fait la nuit. Mais c'était un test, là.
Oui.
Et je pense que Dieu voulait tester l'obéissance, la capacité d'obéissance de Gédéon.
Malgré les risques qu'il prenait. Hein.
Voilà. Alors, le texte nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite, en quelque sorte. Donc, il rassemble tous les Israélites, il rassemble une armée pour aller combattre. Il fait ses préparatifs. Alors bon, Gédéon va redemander deux signes à Dieu, mais par sincérité. Demander un signe, c'est pas forcément mauvais, mais ne marcher qu'à coup de signe toute sa vie.
Non, il y a peut-être un problème. Il y a un moment donné, il faut
être autonome, dans la confiance, autonome, oui. Et puis oui, dans la confiance et dans l'autorité. Alors là, Gédéon est au début d'un grand ministère. On peut comprendre qu'au début...
Oui, il faut qu'il soit confirmé.
Dans les faits, oui, bien sûr. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, un ancien d'Israël qui est venu avec une corne d'huile pour le oindre,
non.
De Gédéon. Non. Donc, il demande, si on veut, l'onction venant d'en haut,
oui.
Directement. Alors, il y a le coup de la toison.
Bien connu, l'histoire de la toison de Gédéon.
Je vais mettre une toison, donc une toison de laine, je pense, de mouton, enfin bon.
C'est ça.
Je vais mettre une toison là dans l'air, c'est-à-dire dans le pré. Et puis, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, demain matin, quand j'irai regarder, s'il y a ça, alors je connaîtrai que c'est vraiment moi que tu as choisi et que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et puis, c'est arrivé. J'ai dit, on vite se lève.
Il va voir ce qui se passe.
Presse la toison. Il en fit sortir la rosée, verset 38, qui donna de l'eau plein une coupe. Et puis, il n'y avait pas d'eau. Il
n'y
avait pas de
prêt.
Rosée sur le pré. Alors là, il est scotché, Gédéon. Mais il avait encore une petite part de doute.
Oui, oui. Alors, on va faire le contraire maintenant.
Je ne sais pas si c'est de l'humilité ou de l'incrédulité. C'était peut-être de l'humilité, hein, là. Il a dit, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. J'irai pas plus loin, mais... Est-ce que tu pourrais faire l'inverse demain matin?
On voit ça avec Abraham aussi, Seigneur surtout, quand il dit s'il ne reste que... Voilà, il demande des signes.
Et alors, Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée.
Alors là,
Gédéon est marqué à vie. Il est marqué à vie. Parce que ça, c'est un grand miracle. Bon, Gédéon, c'était un cultivateur, un homme de la terre. Donc, les animaux, les champs, il connaissait. Il savait très bien qu'il n'y ait que de la rosée que sur une toison de laine et pas dans le pré. Il savait très bien que c'était un miracle.
Oui.
Et l'inverse aussi. Hein, une toison sèche alors qu'il y a de la rosée. Alors là c'est bon.
Là, il y va, il est sûr.
Gédéon va y aller et c'est là que ça va être intéressant. Et à la fois, où on peut dire qu'on admire Gédéon. Il a des qualités exceptionnelles. D'abord, d'écoute de Dieu. Deuxièmement, d'obéissance. Et troisièmement, d'obéissance alors qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait.
Ben oui, ça.
Parce qu'obéir quand on comprend. Hein, si je dis à mon fils, tiens... Prends le sac qui est là, va le mettre dans l'entrée de la maison. Bon, le fils voit le sac, il le soulève. Voilà. Mais si je lui dis quelque chose qu'il ne comprendra pas du tout, pas du tout,
ah oui.
Eh ben, il va hésiter. Hein. Il va hésiter. Et là, alors, moi, j'admire Gédéon parce que il réunit tout le peuple. Il se lève de bon matin. Il campe près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Alors, ça commence à se corser, là.
Ouais.
Le combat se prépare. Et voilà Dieu qui va dire à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Alors, des chiffres. Il y a 135 000 soldats de l'autre côté, dans le camp de Madian. Ils sont 135 000. Je vais pas donner les références bibliques, mais les chiffres, ils sont bien dans les chapitres quand on les recherche bien. Et les hommes d'Israël, ils étaient 32 000. Voilà. 32 000
d'un côté. Et 135 000.
Et 135 000 de l'autre. Alors, Dieu va faire un tri. Et ce qui va faire ce tri, c'est le fait que il y en a qui ont peur. Et c'est normal.
Bah
c'est
oui.
Normal parce que
les autres sont bien plus nombreux.
32 000, les autres sont quatre fois plus nombreux. Alors ils sont pas fous, le peuple, ils le savent.
Oui,
ça fait des années que les Amalécites, les Madianites, les Amalécites, donc...
sont plus nombreux, ils sont plus... Voilà, comme une armée de sauterelles.
Ils les connaissent, mais oui. Alors, publie ceci aux oreilles du peuple, Gédéon. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il n'en resta plus que 10 000.
Alors, non seulement ils sont peu nombreux, mais alors ils diminuent encore.
Bah oui. La claque.
Il n'y a rien. Alors là, de moins en moins.
J'imagine le moral en Gédéon à cet instant précis, quand il voit autant d'hommes, excusez-moi, je suis vulgaire, mais se barrer.
Ben oui.
22 000 hommes, qui étaient quand même des soldats.
Ben oui.
Ils avaient peur.
Donc.
Et Dieu ne peut pas utiliser celui qui a peur. D'ailleurs, Josué, au tout début de son ministère, il avait peur. Et on retrouve sans cesse dans les textes, ne crains pas, ne crains pas. Parce que Josué craignait. Puis on comprend.
Mais oui.
On comprend la peur. Alors bon, 22 000 hommes s'en vont. Ça fait du bruit, hein, puis ça prend du temps. Hein. Ils sont partis parce qu'ils avaient peur.
Et il en reste que 10 000.
Il en reste 10 000.
Contre alors, 135 000.
Oui, et Gédéon se gratte la tête, j'imagine.
Bah oui.
Se dit, oh là 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 là. Et puis je pense qu'il a dû dire, Dieu, t'es sûr de ce que tu fais là? Mais comme il avait vu les trucs de la toison,
oui,
il avait vu plein de choses. On va pas rappeler tout ce qu'on vient de dire. Il avait vu tous ces signes. Gédéon continue. Parce qu'il se dit, Dieu a certainement raison.
Ben oui.
Donc on va le faire. Alors, c'est stupéfiant. Dieu parle à Gédéon et lui dit, le peuple est encore trop nombreux. Il y en a 10 000. Hein.
Oui, il y en a 22.
Contre, on a dit 100, combien je regarde mes chiffres, 135 000.
000 oui.
Il y en a plus que 10 000. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai qu'il n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Alors Gédéon fait descendre le peuple vers l'eau. Et puis Dieu dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la lampe comme lapin chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors ceux qui lapèrent l'eau en portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. 300 personnes vont rester aux côtés de Gédéon.
La sélection, elle est
de plus en plus raide, de plus en plus fou. On pourrait... Là, il a dû se dire, Gédéon, il a dû se dire là, alors là, je comprends de moins en moins.
Bah oui, il y a de moins en moins.
Et dans l'œuvre de Dieu,
souvent,
dans le service de Dieu, c'est vrai que nous constatons que par moments, nous n'y comprenons plus rien. Voilà. Et on le disait au début de cette émission, il faut quand même y aller. Il faut quand même obéir, il faut avancer et il ne faut pas s'arrêter.
C'est un signe de foi, malgré tout.
Et c'est le, même si on comprend. On en discutait avant l'émission, Chantal, notre plus grand ennemi, c'est notre raison, notre raisonnement. Et surtout, nous ici en France, notre raisonnement, le plus grand ennemi. La raison qui veut que les choses soient comme ci, comme ça, et pas autre.
L'adversaire va s'en servir pour créer le doute à l'intérieur de soi.
Oui, le doute ou la religiosité.
Oui.
La religiosité. La religiosité, qu'est-ce que c'est ? C'est une imitation.
Oui, c'est en surface.
C'est en surface. Ce sont des gestes plutôt que vraiment des choses fortes à l'intérieur. Et
une foi véritable. Quoi.
Une foi véritable. Alors, donc, là, Gédéon, il réfléchit encore. Puis, j'ai l'impression qu'il a dû dire à Dieu, t'en as de bonnes, toi. Hein? Bon, et puis, bon, ben voilà, Gédéon... Voilà, on avait dit qu'il est marqué comme au fer rouge. Il sait que c'est Dieu qui est avec lui.
Alors, Dieu lui dit, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je délivrerai Madian entre tes mains, que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Voilà, et les autres retournent chez eux. Il ne reste plus que 300.
9700 hommes sont repartis à ce moment précis.
Ben oui. Il en reste 300.
300.
Contre 135 000, de l'autre côté.
Alors, il y a un signe. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va parler à Gédéon et qui va lui dire, si tu crains de descendre, hein, de descendre combattre contre les Madianites, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur, descends au camp car je l'ai livré entre tes mains. Dieu va donc dire à Gédéon de pénétrer dans le camp ennemi. Pas facile, hein.
Oui. Tout seul, enfin, avec son serviteur, ils sont deux là.
Alors ils sont deux.
Pour se donner du courage quand même.
Pour se donner du courage. Alors
et Dieu lui dit quand même, voilà, il lui donne une instruction quand même.
Tout à fait. Alors Gédéon, donc, il y va.
Tu écouteras ce qu'ils diront.
Oui, tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Ça, c'est incroyable, quoi, d'aller dans le camp de l'ennemi pour entendre la parole de l'Éternel. Hein? Alors, le texte nous dit que Madian, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Oui, leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Hein? Quelle armée, hein? Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe.
Dans le camp ennemi. Hein, c'est...
Dans le camp ennemi. Hein. C'est deux soldats ennemis qui discutent.
Oui.
Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle était renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Donc il est saisi, hein, il est touché.
Oui. C'est impressionnant.
C'est un miracle. Il revient vers le camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Toujours pareil. L'Éternel a livré.
C'est fait déjà.
C'est fait.
Alors que là,
c'est déjà fait.
Oui.
C'est déjà fait. Alors,
c'est dans la foi, hein.
Je ne sais pas comment Dieu a fait pour mettre ces deux hommes là, qui sont des ennemis d'Israël qui vont confirmer l'appel de Gédéon, l'appel de Gédéon, et le fait que Dieu avec Gédéon vont détruire leur camp à eux.
Mais oui.
Parce qu'ils sont en train de parler d'eux. Là.
Mais oui. Et ils savent que ça va se faire. Enfin...
On va périr. Ouais. On va périr. C'est quand même extraordinaire comme signe. Hein, quand Dieu
se sert de l'ennemi pour...
des ennemis pour donner la parole de l'Éternel. Dieu peut tout faire, y compris parler par un âne, on le sait.
Ben oui, c'est une belle âne.
Voilà. Voilà. Alors, comment, je ne sais pas si on va aborder tout de suite la suite. Ça ne sera pas très long, mais est-ce qu'il y a un chant ou quelque chose de prévu tout de suite?
Ben, non, peut-être pas. Dans deux minutes.
Bon, alors on va peut-être...
deux, trois minutes. Hein.
On va peut-être juste...
peut-être, oui, dire...
Introduire
voilà.
L'histoire suivante. Gédéon divisa en trois corps les 300 hommes.
Donc, alors, encore, il les divise, ils sont 300, il les divise en trois.
Il les divise en trois. Mmh. Ça fait 100 et 100 et 100. Il leur remit...
Quelle va être la tactique?
Il leur remit à tous. Alors, écoutons bien. Hein.
Oui.
Est-ce que vous croyez que ça sera des pistolets mitrailleurs ou des masses 36? Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ah bah ça alors.
C'est pas banal, hein, parce que
ça,
on
alors,
se dit qu'est-ce que comme arme c'est.
Je pense que Gédéon a tellement été saisi de voir que ce sont des ennemis qui ont confirmé sa victoire.
Oui, c'est ça, oui.
Qu'il a dû passer du temps ensuite à consulter Dieu.
Oui, pour dire comment, voilà, voilà. Que faire alors.
Là, et Dieu lui montre. Les cruches, les flambeaux et les trompettes. Et c'est avec 300 trompettes,
oui.
300 cruches vides et 300 flambeaux
dans les cruches.
Dans les cruches, de manière qu'on ne voit pas qu'ils sont allumés.
Quelle tactique, hein.
300 trompettes, 300 cruches, 300 flambeaux. C'est avec ça que...
300 hommes,
oui,
et c'est 300 hommes contre 135 000.
Contre 135 000, c'est-à-dire que j'ai fait les calculs, 0,02% de combattants remplis de l'Esprit de Dieu mettront en déroute 100% d'ennemis. Incroyable, mais vrai. Alors réfléchissons pour nos vies.
Voilà, réfléchissons. Oui, c'est pas avec forcément des grandes choses
une toute
que Dieu.
Une petite minorité.
Alors,
peut amener la victoire.
Pour nous donner le temps de réfléchir et de digérer tout ça, on va écouter les fraternités monastiques de Jérusalem. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Il y a de quoi, hein, quand on voit ce que Dieu peut faire et fait.
Radio Notre-Dame.
En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit de l'esprit vivra, te crie Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Père Saint, qui répand ton esprit sur la terre.
Voilà, que en ton esprit, tout l'univers se réjouit. Voilà, c'était donc les Fraternités Monastiques de Jérusalem, une musique arrangée par André Gouze, enfin, le père André Gouze. Donc, nos auditeurs sont aussi invités à parce que c'est une histoire, c'est un que l'on compte, hein, c'est une histoire, l'histoire de, biblique. Oui. Et on est un peu, renversé, mais pour nous aussi, il peut y avoir des situations, je m'adresse aux auditeurs, des situations où tout semble boucher, l'horizon humainement parlant.
Depuis longtemps.
Et qui, c'est une situation où tout s'est renversé par la grâce de Dieu.
Et en quelques heures.
Oui, c'est un dénouement. Voilà. Alors, si vous avez vécu cela, voilà, avant la fin de l'émission,
n'hésitez pas à
témoigner en nous appelant au 01 56 56 44 00.
Voilà.
Alors, pour notre brave Gédéon, que se passe-t-il? On voit qu'il a, pour toute arme, on peut dire, avec ses 300 hommes, des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches.
Voilà.
Alors,
la tactique de Gédéon. Il dit à tous ces hommes qui n'avaient pas peur, rappelons-le, puisque les gens craintifs étaient partis.
Oui, c'est ça. Donc déjà,
ils n'avaient pas peur.
Ils sont confiants. Hein.
Oui, ils sont confiants. Et ils sont soumis à Gédéon. Ils croient en lui. Vous me regarderez, dit-il, Gédéon.
Et vous ferez comme moi.
Et vous ferez comme moi.
Pas difficile, hein. Donc.
Alors à ce stade-là, il y en a qui diraient, c'est pas une équipe, ça. C'est comment il y a quelqu'un qui est au sommet, il y a que lui qui compte, quoi. Hein. Vous ferez comme moi. Il y en a qui seraient prêts à contester. Alors vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi. Vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « Pour l'Éternel et pour Gédéon !» Alors là, je continue à lire le texte, c'est nécessaire. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui, lui il avait un groupe de 100.
De 100, hein. Puisqu'il est divisé en 3.
Il a dû nommer 2 autres chefs pour les 200 autres. Mmh. Et alors, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Bon, alors, je ne me suis pas renseigné, mais j'aurais dû regarder. C'est un petit peu de ma faute. Au commencement de la veille du milieu, je pense, je ne sais pas à quelle heure c'était, mais je crois qu'il faisait nuit. Je suis même sûr, il faisait nuit. Hein, mais dire quelle heure exactement c'était, j'aurais pu le rechercher. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait.
En tout cas, c'était au milieu, enfin sûrement de
nuit.
Mais c'est précis, au commencement de la veille du milieu. Hein.
Oui, c'est précis.
Et on vient de placer les gardes.
On vient de placer les gardes. Oui. Hein. Alors, c'était peut-être des relèves, d'ailleurs, de gardes. Hein. Alors, ça y est, ça y va. Attention, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Bet-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Bet-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb. Ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Eh bien, ça rigolait pas. Hein.
Ben oui.
Il y avait des coupeurs de tête, là. Mais ça, c'était à l'époque.
À l'époque, c'est comme... Oui, hein, c'était...
Ils étaient comme ça.
Et on se souvient avec Judith, hein, avec une histoire aussi comme ça de... Mmh. Ça faisait partie, voilà, de la culture de l'époque. Hein, de...
Oui. Alors, il y a des leçons extraordinaires qui sont à tirer, notamment si on veut parler des armes que ces 300 hommes ont utilisées pour battre 135 000 ennemis.
Oui. Hein. Il y a les alors, trompettes, les cruches et les flambeaux.
Oui, alors la première arme, je dirais que c'est la présence de Dieu.
Ah oui, bah oui, ça.
Gédéon s'était bien assuré que Dieu était avec lui et que Dieu l'avait choisi pour cette mission.
Voilà, il ne s'est pas donné à lui-même les choses. Hein. Voilà. Ben non, on peut comprendre parce que oui. C'est...
Donc ça, c'est la première arme, c'est l'écoute de Dieu et la certitude que Dieu est avec nous et va nous donner la victoire. Ça nécessite la foi.
Bah oui.
Il faut le croire.
Bah oui, ça, on peut
si on ne le croit pas, ben on n'ira pas, quoi. On n'ira pas au charbon, comme on dit quelquefois. Alors, c'était la première arme. Et ça, c'est très important qu'on l'utilise dans nos vies lorsque nous avons un conflit ou des choses qui sont devant nous et qui ne sont pas claires et qui nous résistent depuis des années, des années, des années, des années. Avoir cette arme de la prière, de l'onction, passer du temps à demander à Dieu d'être présent, hein. Passer du temps dans sa présence. Première nécessité. Et ça demande donc des efforts. Ça demande des efforts.
Si la prière manque...
Ben, si la prière manque, on n'a
peut-être pas aller très loin, hein.
La faculté d'écouter la voix du Seigneur, parce que Dieu parle. Et quand on prie, quand on vit dans la prière, on s'habitue à entendre la voix de Dieu, ou à comprendre par intuition ce qu'il veut. Donc ça, cette arme, il nous faut l'avoir. C'est une arme spirituelle. Alors, les autres armes, on les a nommées des trompettes, des cruches, des flambeaux. Bon, les flambeaux devaient être allumés et retournés dans les cruches. Retournés dans les cruches de telle manière qu'on ne voit pas tout de suite la lumière.
Oui.
Hein? Que les ennemis ne
voient
pas.
Oui, c'est ça. C'est caché. La lumière est cachée par les cruches.
La lumière est cachée.
Oui, elle est enfermée.
La victoire n'est pas encore là. Bon, alors, les flambeaux, c'était donc le signe de la lumière qui éclaire et dévoile les ténèbres. Puisqu'à un moment donné, ils ont dû casser les cruches. D'ailleurs, ça a dû faire
du bruit en même temps. Ils ont dû se dire qu'est-ce qu'ils sont nombreux.
Ils cassent la vaisselle.
Non, mais oui. Ce bruit-là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux parce que c'est... Et puis dans les montagnes, il devait y avoir une résonance. Enfin, je veux
absolument,
dire que
Chantal.
Dieu avait prévu tout ça. Enfin,
absolument, hein, absolument. C'est... Et c'est... Mais c'est plein de significations, tout ça. Hein. C'est plein de significations. Alors... quand les cruches ont été brisées, en effet, ça a fait peur. Hein, et tout à coup, il y a eu 300 flambeaux autour du camp. Hein, et ça ne devait pas être des petits flambeaux, hein, ce n'était pas des petits machins. Hein, ça devait être des gros flambeaux
hein,
qu'ils avaient pris soin d'allumer avant. Alors, c'est le signe de la lumière qui éclaire les ténèbres.
Et qui se dévoile tout d'un coup. Hein,
ça dévoile tout.
Quand les cruches sont cassées...
Oui.
Après ce grand fracas...
Voilà. Alors, les cruches, moi j'y ai beaucoup réfléchi.
Qu'est-ce que c'est, ces cruches ?
Alors, elles protégeaient, leur rôle c'était de protéger dont
bah oui, des
les flambeaux
pour
allumés
pas pour pas qu'ils s'éteignent.
Et de cacher la lumière.
Hein. Deux rôles, hein ?
Oui.
Protéger du vent et cacher la lumière.
Et cacher la lumière. Alors, pour moi, les cruches, c'est le signe du renoncement.
Oui, mais elles vont être cassées.
Elles vont être cassées. Mm.
Hein, elles ont un grand rôle dans la préparation, puisqu'elles cachent, elles protègent du vent, elles cachent la lumière quand c'est nécessaire.
Oui. Et leur rôle disparaît au bout d'un moment, quand on doit frapper dessus pour les casser. Donc pour moi, c'est le signe du renoncement. Oui. Et quelquefois, il y a des choses dans nos vies qui nous font mal. Et on est en mille morceaux. Et dans quelques instants, Chantal, nous prierons pour oui. ceux de nos amis auditeurs, auditrices, qui vivent des situations comme ça. On va prier tous ensemble. Hein. Donc, oui. moi, je conseille à ceux et celles qui voudraient aller se coucher ou éteindre leur poste, peut-être attendez un tout petit peu.
Il faut qu'on prie.
Si vous voulez participer à ce moment de prière, parce que ça ne sera pas long. On va le faire, mais vraiment incessamment. Je veux juste dire que les trompettes, qui étaient des cornes de bélier.
Oui.
Hein, et ça fait beaucoup de bruit hein, quand on sonne dedans. Hein, ça s'entend de très loin. Hein. Et comme vous disiez, ça résonne dans les montagnes. Alors, les cornes de bélier, elles annonçaient quoi ? La victoire.
Oui.
La victoire. Donc, nous, je refais une synthèse, puis on va prier pour nos amis qui nous écoutent. Je refais une synthèse. Donc, première arme, la prière, la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu et l'écouter. La deuxième arme, c'est donc de proclamer la victoire. Hein, les cornes de bélier, c'était...
Oui, ça résonne.
Ça voulait dire, on vous a vaincu, quoi. On a la victoire. Hein. Donc, proclamer la victoire sur ce qui nous fait dépérir.
Et les trompettes de Jéricho aussi, hein, déjà.
Oui. C'était ça aussi.
On proclame la victoire, oui.
Et ça a été beaucoup chanté, d'ailleurs, hein, les trompettes de Jéricho. Et puis alors...
Les cruches,
oui. C'est le signe du renoncement dans notre vie.
Oui.
C'est le signe, justement, de toutes les souffrances qu'on endure, mais qu'on intègre et qu'on accepte pour le nom de Jésus, à cause du nom de Jésus. En acceptant de souffrir, on accepte de se mettre à sa suite.
Et ça va porter du fruit.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront également. Alors là, il y a toujours cette arme. Hein, on a parlé des trompettes, de la proclamation, on a parlé de la prière, on a parlé du renoncement, hein, c'est-à-dire... voilà, accepter de souffrir. Et Pierre le dira dans une de ses épîtres. Il le dira, il l'enseignera même, hein, que d'accepter de souffrir. Et puis alors, puisque je fais une synthèse, l'autre arme,
les flambeaux,
signe de la lumière qui dévoile les ténèbres. Eh bien, là, cette lumière a été projetée sur le camp. Ça a fait peur. Et moi, je dirais que c'est aussi l'image de l'Esprit de Dieu.
Bah oui, la lumière de Dieu, la lumière.
Qui est descendue à la Pentecôte,
sous forme de langue de feu.
C'est comme l'Esprit de Dieu qui est projeté sur notre épreuve. Mais la victoire nous est donnée, non pas parce qu'on a été nombreux à prier, non pas parce qu'on a été nombreux à combattre, mais qu'on est resté dans la prière.
Dans l'obéissance.
Dans l'obéissance au travers du renoncement et de la souffrance.
Oui, oui.
Également, donc, on a proclamé la victoire. Donc, ne pas se décourager. Un jour, on y arrivera. On va gagner. Hein. Et puis, il y a aussi cette lumière du Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit, qui, à un moment donné, c'est Dieu qui va le faire, à cause du renoncement.
Oui.
L'Esprit de Dieu va être présent. Eh bien, cet Esprit qui est puissant va mettre en déroute notre épreuve et nos ennemis. Alors, je pense que ça serait bien, Chantal, si vous êtes d'accord, de prier peut-être au niveau... Je regarde Chantal parce qu'au niveau du timing, c'est plutôt...
On a bien 3 minutes, 3-4 minutes.
Voilà. Alors, on va maintenant prier vraiment pour... nos amis qui viennent de nous écouter, je vous invite à ceux qui le veulent à fermer les yeux peut-être, à rester debout ou assis ou à vous mettre à genoux. Je vous invite à prier avec nous maintenant. Oh, qui sommes-nous, Chantal et moi-même, pour faire quelque chose dans vos vies ? Nous ne sommes rien du tout. De même que Gédéon n'était rien du tout. Mais Gédéon avait cette force d'écouter Dieu, de lui obéir, et de croire dans le miracle, alors que ça faisait 7 ans que les Madianites détruisaient leur récolte, mettaient le feu à leur récolte, détruisaient tout sur leur passage. C'était infernal. C'est une épreuve incroyable. 7 ans de bagne comme ça. Alors Gédéon a eu cette perspicacité, ce courage d'écouter Dieu, alors que c'était le plus petit parmi son peuple. Il a écouté Dieu et puis il a observé toutes les étapes de l'obéissance à Dieu. Le tri du peuple, ils sont passés de 35 000 à 10 000 et ensuite de 10 000 à 300. Et puis il y avait l'histoire des cruches, des flambeaux et puis des trompettes. Alors je vous invite, vous qui m'écoutez maintenant, à vous plonger vraiment dans la grâce de Dieu comme Gédéon le faisait, à essayer d'entendre la voix de Dieu, à passer du temps avec lui, vous plonger dans sa présence. Et puis je vous invite à ne plus être amer par rapport aux souffrances que vous venez de traverser et à courber l'échine. On a souvent des souffrances qu'on n'aurait jamais voulu avoir. Mais les souffrances nous aident à rentrer dans le renoncement. C'est la deuxième arme, le renoncement. Le renoncement. Et je vous invite maintenant, dans votre prière, à proclamer à voix haute, si vous pouvez. Tant pis pour le voisin, hein ? Il vous entendra. Ben, c'est très bien. Je vous invite à proclamer « Oui, oui, moi, je sortirai de cette épreuve. Oui, moi, Sophie, moi, Pierre, moi, Gérard, moi, Antoine, je suis seul face à tout le monde. Je suis écrasé par les épreuves. Mais la victoire sera là. Dieu va donner la victoire dans ma vie. Je triompherai. » Et je vous invite maintenant à appeler le Saint-Esprit sur les personnes qui représentent peut-être l'obstacle de vos vies ou sur les situations, les événements. Maintenant, demandez au Saint-Esprit de visiter toutes ces choses-là. Tout ce qui a besoin d'être visité, transformé, miraculé. Que l'Esprit de Dieu maintenant agisse dans le camp ennemi. Dans votre camp ennemi, que l'Esprit de Dieu soit projeté et que l'ennemi soit défait complètement. Et Chantal et moi-même, nous prenons maintenant autorité dans vos vies et nous brisons les cruches et nous brisons vraiment tout ce qui pourrait vous empêcher désormais d'avancer avec le Seigneur. Soyez bénis, nous avons pris autorité. Prenez autorité vous-même également, sonnez de la trompette et proclamez que Dieu met en déroute tous vos ennemis. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont fait cette expérience ce soir et qui vont constater bientôt des délivrances spectaculaires dans leur situation. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur. Nous allons écouter tout de suite, justement, ce chant, un chant à l'Esprit Saint, Et in Spiritum Sanctum, de Mozart par les petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Voilà ce chant à l'esprit, enfin, petit chanteur de Sainte-Croix de Neuilly. Et in spiritum sanctum de Mozart. On était vraiment dans l'esprit. Hein.
Oui, on était
dans l'esprit du Seigneur. Et c'est comme cela que la victoire peut venir. Et je crois qu'il faut apprendre à marcher par l'esprit, dans l'esprit, je ne sais pas comment on peut dire.
Oui.
On est appelé à ça aujourd'hui.
Oui, oui.
Je crois,
et je discutais avec l'un de mes amis pasteurs il y a 8 jours. Et il me disait, tu sais Philippe, il y a une différence entre marcher par l'esprit et marcher par la puissance de l'esprit.
Ah.
Alors, au début, j'étais un peu dubitatif. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut me dire?
Oui.
Il m'a dit, oui, il y a une différence fondamentale. Il y a des gens qui marchent par la puissance de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'ils avancent spirituellement, qu'ils voient constamment la puissance de l'esprit à l'œuvre.
Ah oui.
Par des signes et des miracles.
Oui, oui, oui.
Alors, il faut des signes et des miracles tous les jours, tous les jours. Si ce n'est pas ça,
eh ben, oui.
On n'avance pas. Marcher par la puissance
de l'esprit.
De l'esprit. Et puis, il m'a expliqué, il m'a dit, ben, y a ceux qui marchent par l'esprit. Ils n'ont pas forcément besoin de cette puissance visible.
Mm-hmm. Des signes constants.
De signes, de miracles, de prodiges. Mm. Ils savent avancer dans le noir.
Ouais,
dans un tunnel, sans lumière.
La foi, c'est la nuit de la foi. Hein,
oui, la nuit de la foi.
La confiance.
Croire sans voir.
Sans voir.
Alors, ce sont, il m'a dit, il y a 2 sortes de chrétiens à l'heure actuelle. On m'a dit, il y a ceux, et également, on le voit dans les grands rassemblements, il y a ceux qui veulent absolument
des signes,
mais je veux dire, comme condition
c'est ça.
De leur vie spirituelle. Hein, c'est ça que je veux dire, parce que ce n'est pas mauvais
non, bien sûr.
Demander des signes, des prodiges, il en faut. Il faut qu'on en demande.
Comme Gédéon, là. Mais...
Comme Gédéon, et puis comme chacun d'entre nous.
Bah oui.
Un jour ou l'autre, Seigneur, allez, tu vas descendre, et là, tu vas faire... Voilà. On vient de le demander dans la prière, pour nos amis auditeurs, auditrices. Alors, c'est bon de le faire. Alors, il m'a dit, donc, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui sont capables d'avancer dans le silence, sans faire du bruit. Ils vivent dans la profondeur de l'Esprit de Dieu. Ils écoutent. Et ils obéissent. Et puis, il y a ceux qui vont vivre uniquement, je dis bien uniquement, par la puissance de l'Esprit. Alors, il leur faut des signes. D'ailleurs, Jésus avait dit, je crois, il me semble que c'est aux habitants de Nazareth, qu'il n'a pas fait de miracle là-bas.
Oui. Parce qu'il n'avait pas la foi cette fois.
Il n'y avait pas la profondeur
de l'Esprit. Oui.
Il n'y avait pas la profondeur. Il n'a pas fait.
Même Dieu ne pouvait pas faire de miracle dans son pays. Parce qu'il n'y avait pas l'accueil, le réceptacle de cette profondeur de la foi.
Tout à fait. Alors, moi, ça m'a bouleversé, cette parole de ce pasteur. Ça a été une vraie révélation pour moi. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a donc 2 sortes de chrétiens. Il y a ceux qui courent uniquement vers des grands rassemblements, où il y a des grandes choses, des grandes choses émotionnelles, des grandes choses, mais il faut, des grandes choses. Puis on est nombreux, et puis on est 1500, on est 3000. Waouh, c'est la gloire de Dieu. Je n'ai rien contre cela. Et j'ai souvent été béni et encouragé dans des rassemblements comme ça. Et on en a besoin.
Mais ça, souvent dans les premier temps, Dieu donne. Il y a comme une sorte de maturité. Enfin de,
alors, vous faites bien de parler de maturité, Chantal. Moi, je crois que il faut de la profondeur. Et cette profondeur, on l'aura dans notre vie intérieure si on accepte nous-mêmes de nous approfondir.
Bien sûr.
Si on s'approfondit soi-même, on attire la profondeur de Dieu en nous. Ça, c'est clair.
Et ça, on parlait du renoncement, les cruches de renoncement, c'est souvent par ce biais-là.
C'est ça. Alors, évidemment, c'est désagréable de briser une cruche. Et puis, on perd la cruche aussi. Hein. je ne sais pas combien ça a dû coûter l'ensemble de l'opération, 300 cruches. On pourrait aller dans une grande surface et puis faire un devis et acheter 300 jars dans une grande surface. Voilà.
Là, bon. Il n'a pas hésité à sacrifier les 300 cruches.
Voilà, les 300 cruches ont été sacrifiées. Et puis attention, c'est que il a pris des risques. Hein, parce qu'il avait 300 hommes sous garde, quand même,
ben oui.
Gédéon. Et s'il s'était trompé, ça aurait donné un carnage. Hein, puisqu'au départ, on avait dit qu'ils étaient
135 000. Et eux, 300.
Voilà, et eux, 300. Bon, ben, il a pris des risques. Je suppose qu'il y a eu un moment donné, il a dû avoir un peu mal au ventre. Hein,
oui, c'est sûr.
En se disant, bon, mon Dieu, j'espère que je ne me trompe pas et que tu n'es pas en train de faire une erreur. Et puis, il a dû se pincer un peu pour se dire, bon, c'est sûr que je suis là.
Mais il a quand même eu ses signes avant. Hein.
Alors, il a eu ses signes, mais... Alors, Gédéon a pu, donc... rentrer dans la puissance de Dieu, mais parce qu'il était un homme de l'Esprit de Dieu.
Oui, de profondeur.
Il marchait par l'Esprit de Dieu et pas par la puissance de Dieu. Et parce qu'il marchait par l'Esprit de Dieu, la puissance lui a été donnée par-dessus.
Oui, par surcroît.
Et c'est pour cela qu'il est dit, et c'est un titre qui peut être interprété de deux manières, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel.
Oui,
si on prend ça au mot à mot, en parlant de la force du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, et puis de l'Esprit lui-même, on retrouve les propos
de ce pasteur qui m'a
dit l'autre jour. Alors le problème, c'est quand les chrétiens ne veulent marcher qu'à coup de... miracle. Je dis bien exclusivement.
Exclusivement, hein?
Je ne parle pas du chrétien normal qui vit par l'esprit, qui est dans l'esprit et qui
peut
de temps en
signe,
temps, oui. Mais oui, va prier pour un malade. Et puis voilà, et on veut que ça bouge. Je ne parle pas de cela. Celui-ci, il est profond et il fait un bon travail au niveau de la puissance de Dieu aussi. Alors, le problème... c'est le chrétien qui ne veut marcher qu'à coup de cela.
Il reste là uniquement dans cette...
Il ne va pas mûrir. Vous avez utilisé le terme de maturité.
Maturité, oui.
Alors, il ne va pas devenir mature et vous le retrouverez toujours au même stade dans son cheminement.
Mmh. Oui, c'est ça, il ne bouge pas.
Et vous le retrouvez ensuite déprimé entre deux épreuves ou pendant les épreuves. Pourquoi ? Ben parce que je souffre, parce que Dieu n'est pas avec moi, ou Dieu m'a abandonné.
Non,
c'est toi qui veux marcher...
par la puissance de l'esprit uniquement.
Par la puissance, et puis tu veux marcher dans le visible, et pas dans l'invisible.
Ben c'est ça.
Or, Dieu, lui, a choisi, et c'est sa plus grande puissance encore...
de marcher...
de rester invisible.
Invisible, ben oui.
Quelle puissance! Quelle puissance!
Alors, quand on est dans ce sillage-là, on est avec lui, même si on ne voit rien.
Et voilà, si on ne voit rien, on va quand même avancer, faire avancer les autres. Mais pour ça, il faut prêcher la souffrance également.
Il faut prêcher
la croix, le renoncement. Et ça, c'est très important de l'enseigner parallèlement aux enseignements qui nous apprennent à susciter des miracles.
Surtout que ça ne va pas dans le sens du monde. Hein. Les miracles, oui, enfin le côté...
spectaculaire. Oui. Mais le côté profondeur, ça va exactement à l'inverse de cette période de temps que nous vivons, où c'est le plaisir,
c'est
la superficialité qui règne.
Donc,
soyons des chrétiens équilibrés, qui marchons dans l'esprit,
hein,
des hommes de l'esprit,
Et qui accueillons aussi
la puissance de Dieu. Et là, l'équilibre est bon. Et ça donne des chrétiens qui tiennent dans le temps et qui sont solides. Et c'est ce que nous voulons devenir tous et toutes.
Voilà. Et ça rappelle la parole de Saint Paul Quand on est petit, enfin, je buvais du lait, j'ai été nourrie par du lait, donc lait, voilà. Qui, et maintenant, adulte, la nourriture solide, et c'est un petit peu ces deux, mais qui s'équilibrent.
Absolument, absolument. Alors, il y a du travail, il y a du boulot, et il faut que des enseignants courageux se lèvent maintenant pour parler du renoncement, de la souffrance. D'ailleurs, on est en période d'attentat.
Oui, là,
on est en période où les gens souffrent.
On a intérêt à
il faut
comprendre ça.
Que
et
des hommes et des femmes solides, qui soient prophètes et prophétesses peut-être, se lèvent pour dire attention, tout n'est pas toujours facile quand on est chrétien.
Des Gédéons.
Des Gédéons qui briseront des cruches.
Un grand merci, qui sonneront la trompette et puis les flambeaux aussi.
Voilà.
Un grand merci, pasteur Philippe Osney.